Bonjour et merci d'être là aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui s'adresse à tout le monde, mais il parle du mariage. Cependant, certains principes vous aideront, que vous soyez célibataire, marié, divorcé ou quelle que soit votre situation. La Bible a beaucoup à dire à ce sujet. Je vous encourage donc à prendre votre Bible, si vous en avez une. Certaines de ces choses vont peut-être bouleverser votre vie, et si c'est le cas, c'est que c'était nécessaire. Plongeons-nous ensemble dans la parole.
Bonjour, je m'appelle Bayless Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de difficultés relationnelles, d'une crise de santé ou de la recherche d'un but, une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime. Et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, il a les réponses.
L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a abordé le sujet du mariage. Et il a ensuite abordé les relations entre enfants et parents, puis entre parents et enfants. Il est ensuite passé aux relations maître-serviteur ou, de nos jours, aux relations employeur-employé. Mais avant d'aborder le thème des relations, tant ici en Éphésiens 5 qu'en Colossiens 3, juste avant les instructions sur les relations, il nous est demandé de rechercher la volonté de Dieu pour notre vie, d'être rempli du Saint-Esprit, d'avoir une relation personnelle croissante avec le Seigneur et d'avoir toujours un cœur reconnaissant devant Dieu. Ensuite, il aborde le thème des relations. En d'autres termes, si vous voulez que vos relations horizontales s'épanouissent, mariage, travail, amitié et famille, votre relation verticale doit d'abord s'épanouir. Il est étonnant de voir ce qui peut se produire lorsque vous avez une relation florissante et croissante avec le Seigneur. Éphésiens 5, 21 dit ceci, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » La NFC dit, « Soyez soumis les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. » Dans toutes les relations, il y a une dimension horizontale, mais il y a aussi une dimension verticale qui entre en jeu. Si vous rencontrez des difficultés dans une relation, vous trouverez la réponse de cette manière. Dieu vous donnera la sagesse nécessaire, mais vous devez d'abord vous pencher sur la dimension verticale. Parlons donc du mariage et commençons par examiner le rôle de la femme d'un point de vue biblique. Versets 22 à 24. « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et donc il est le Sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. » Les Écritures disent que lorsqu'un couple se marie, les deux ne font plus qu'un. Le problème, c'est que certains couples passent le reste de leur vie à chercher lequel. Lequel aura gain de cause, lequel dominera, lequel cédera. Mais cela, mon ami, n'est pas l'idéal. Ne soyez pas comme cette femme qui a promis d'être une bonne épouse, mais qui, une fois mariée, s'est dit qu'il serait plus facile de faire de lui un meilleur mari. En réalité, la seule personne que nous pouvons changer, c'est nous-mêmes, avec l'aide du Saint-Esprit. Examinons le passage qui dit « Femme, soumettez-vous à votre mari ». Dans le contexte du mot « soumettez-vous » en grec, cela véhicule l'idée d'adaptation. La Bible amplifiée en anglais dit « Soyez soumise et adaptez-vous à votre mari, et non au mari de quelqu'un d'autre ». Ne dites pas « si seulement mon mari était comme lui ». Vous pensez que l'herbe est plus verte de l'autre côté, mais si vous sautez la clôture, vous risquez de découvrir que de l'autre côté, il n'y a que du gazon artificiel, ou qu'il a été peint en vert. Certaines devraient être plus reconnaissantes, vous ne réalisez pas à quel point vous êtes béni. Alors ne commettez pas l'erreur de comparer votre conjoint à quelqu'un d'autre. Adaptez-vous à lui, en d'autres termes, découvrez son caractère unique et ses talents et encouragez-le dans ses domaines. Vous avez entre les mains une clé que personne d'autre ne possède. celle d'être sa plus grande source d'encouragement et sa plus grande supportrice. Mesdames, vous pouvez enchaîner votre mari ou lui donner des ailes. Vous avez le pouvoir de l'encourager dans les domaines où Dieu l'a doté de talents et de dons spécifiques. La Bible déclare en 1 Pierre 3:7 que le mari et la femme sont co-héritiers de la grâce de la vie. Co-héritiers. Mais comme pour toute chose dans le royaume, il existe un ordre établi par Dieu dans le foyer. D'où le mot « soumission ». Je voudrais vous lire un autre verset, car Éphésiens 5:23 dit « Car le mari est la tête de sa femme comme le Christ est la tête de l'Église ». 1 Corinthiens 11:3 « Cependant, je veux que vous compreniez ceci, le Christ est la tête de tout homme, le mari est la tête de sa femme, et Dieu est la tête du Christ ». Dieu est la tête du Christ. Le Christ est la tête de tout homme, et le mari est la tête de sa femme. Dieu est la tête du Christ. Mon ami Jésus et Dieu le Père sont absolument égaux. Il est assis à la droite du Père. Jésus a dit « Le Père et moi sommes un. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Il y a là une égalité absolue. Aux yeux de Dieu, le mari et la femme sont égaux. Cela n'a rien à voir avec la supériorité ou l'infériorité. La soumission biblique ne fonctionne que lorsque le couple réalise qu'ils sont égaux devant Dieu. Le mot « se soumettre » est un terme militaire qui signifie « se placer sous le commandement de ». Il ne s'agit pas de supériorité ou d'infériorité. Cela n'enlève en rien à la femme sa voix, son opinion ou son influence. Y a-t-il ici des hommes mariés à une femme de caractère ? Levez la main. Certaines femmes disent « ne lève pas la main ». Ma femme est en tête de liste des femmes de caractère. C'est vrai, et j'apprécie cela chez elle. C'est ainsi que Dieu l'a créée. Mais étonnamment, en 43 ans de mariage, nous n'avons jamais été en désaccord. Oui. Non, nous nous disputons parfois sérieusement à propos de certaines choses. Pour être honnête, certaines choses ne sont pas importantes. Je vois les choses différemment, mais je dis, chérie, fais ce que tu veux. Je ne veux pas y laisser ma peau. Ce n'est pas si grave, mais il y a certaines choses sur lesquelles je ne cède pas. Il y a certaines choses auxquelles je vais dire non, je ne changerai pas d'avis, et elle le sait. Peut-être que j'ai un regard particulier ou quelque chose comme ça. Alors nous discutons et elle me demande de prier à ce sujet, et je le fais. Puis si je lui dis « chérie, j'ai prié et je ne vois pas les choses de cette façon », non. Elle cédera par respect pour Christ, car c'est ce que dit la Bible. Elle ne se met pas de mauvaise humeur et ne dit pas « ok, je vais me soumettre, mais tu vas le payer ». Tu vas souffrir. La soumission ne se limite pas à faire les choses avec lesquelles vous êtes d'accord. Il n'y a pas de soumission tant que votre volonté n'est pas contrariée. Cela vaut la peine d'y réfléchir. Mais je tiens à souligner que ce n'est pas inconditionnel. Elle doit se soumettre, soumettez-vous à votre mari en toute chose, à moins que cela ne vous fasse pécher ou ne viole votre conscience. C'est une soumission à Christ. Christ ne va pas demander de péché. Si je dis à ma femme, nous allons cambrioler une banque, tu dois te soumettre. Non. Ou si je lui dis, tu dois signer cette déclaration d'impôt frauduleuse, elle n'est pas obligée de le faire. Je ne peux pas la forcer à commettre un péché ou à violer sa conscience. Paul a écrit « J'ai eu constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » En d'autres termes, je n'ai pas violé ma conscience, ni verticalement, ni horizontalement. Il a ensuite enseigné aux Corinthiens que la conscience est sacrée. Lorsque vous violez votre conscience, vous commettez un péché. Ses parents sont au ciel et les miens aussi. Mais imaginons que ses parents soient encore en vie et que je sois en colère contre sa famille pour une raison quelconque. Je lui dis, tu ne peux plus jamais contacter ta famille. Je ne veux pas que tu les appelles. Je ne veux pas que tu les vois. Elle ne va pas se soumettre à cela, car elle dirait, ma conscience ne me permet pas de faire cela. Je suis censé honorer ma famille, et cela ne les honorerait pas. Il y a donc des limites à la soumission. Vous ne pouvez pas obliger votre femme à commettre un péché ou à faire quelque chose qui va à l'encontre de sa conscience. La femme peut toujours faire appel à une instance supérieure, le ciel et la prière. La prière change les choses, elle change même l'esprit des hommes. Ce dont je parle n'a rien à voir avec le syndrome « je suis l'empereur dont souffrent certains hommes ». Tu dois faire ce que je te dis, quoi qu'il arrive, je suis le chef et l'empereur à la maison. Non, ça c'est une soumission forcée, ce n'est pas la soumission biblique. La soumission biblique est une soumission volontaire entre égaux, faite par respect pour Christ et par respect pour le mari, dans l'ordre établi par Dieu. Lorsque j'étais jeune chrétien, je passais du temps chez un ami, et la voisine d'à côté est venue. Le voisin d'à côté et sa femme étaient chrétiens, et lui était ancien dans son église pentecôtiste. Elle est venue tard un soir, il vivait dans un quartier malfamé de la ville. Ce n'est pas un endroit sûr pour une femme seule après la tombée de la nuit. Tard dans la nuit, en pleurs, elle demande « Je peux entrer, j'ai nulle part où aller ». La femme de mon ami répond « Oui, entre, que se passe-t-il? Mon mari m'a mise à la porte ». Elle lui demande pourquoi et elle répond « Parce que je ne voulais pas me soumettre ». La femme a discuté avec elle, mais j'ai compris l'essentiel. Elle ne voulait pas franchir une certaine limite dans la chambre à coucher à cause de sa conscience. Il lui a dit « Tu te soumets ou tu pars » et il l'a mise à la porte. C'est tellement loin de la norme biblique. Les maris doivent aimer leur femme comme Christ aime l'Église. Cela nous amène au sujet de la responsabilité de l'homme. Nous ne pouvons pas sortir le principe de soumission de son contexte. Il ne peut être dissocié du rôle du mari, car franchement, messieurs, si nous ne faisons pas notre part, tout s'écroule. Verset 25, « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire apparaître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Marie, nous devons aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église. Il existe plusieurs mots grecs différents pour désigner l'amour. Il y a le mot eros, c'est l'amour érotique, l'amour sexuel. Il y a le mot « philéo » qui signifie « amour fraternel ». Philadelphie vient du mot « philéo », la ville de l'amour fraternel. Il y a un autre mot, « storgé », l'amour que les membres d'une famille ont les uns pour les autres. Mais l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a également utilisé un autre mot, « agapé ». C'est un amour sacrificiel, c'est le genre d'amour avec lequel Jésus aime l'Église. Le mot « agapé » n'est pas basé sur des sentiments, il est basé sur les décisions que nous prenons. Il signifie littéralement « Marie, vous devez continuellement décider de mettre votre femme à la première place. Vous devez continuellement décider de vous sacrifier afin de donner la priorité à votre femme et à ce qui lui sera bénéfique en premier lieu. » Jésus n'a pas dit « Quand les gens changeront, je donnerai ma vie pour eux. » Il a donné sa vie pour nous alors que nous étions dans notre pire. Si un mari dit « je la mettrai au premier plan et je l'aimerai quand elle changera ou quand elle fera des efforts », il n'aime pas sa femme comme Christ a aimé l'Église. Vous devez l'aimer de manière sacrificielle et faire passer ses intérêts avant les vôtres. C'est le genre d'amour avec lequel nous devons aimer notre femme. Messieurs, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, la grâce et la puissance sont libérées. La grâce et la puissance de Dieu seront libérées dans votre mariage, non par les paroles que vous connaissez ou que vous pouvez réciter, mais par les paroles que vous mettez en pratique et auxquelles vous obéissez. Si nous faisons ce que les Écritures nous disent de faire, la grâce de Dieu entrera en scène et nous aidera. Alors pourquoi est-ce que je veux me soumettre à Christ? Pourquoi? En tant que membre de l'Église, j'ai sincèrement envie d'entendre ses prochaines instructions à mon égard. Dieu, parle-moi à travers ta parole, montre-moi quoi faire, je veux me soumettre. Pourquoi? Eh bien, il a toujours du temps pour moi. Il ne dit jamais « je suis trop occupé ». Il a toujours été bon envers moi, même quand je ne le méritais pas. Il est toujours honnête. Il ne me jette pas mes échecs passés au visage. Je suis sauvé depuis près de 50 ans et le Seigneur ne m'a jamais dit une seule fois « Tu fais toujours ça ?» Pas une seule fois. Il ne m'a jamais rappelé mes échecs passés. Il est indulgent, il m'apporte sécurité, protection et amour inconditionnel. Et quoi qu'il arrive, je sais toujours qu'il désire le meilleur pour moi. Quand un mari aime sa femme de cette façon et qu'elle a une relation authentique avec le Seigneur, la soumission ne présente vraiment pas un problème. Puis il dit, tout comme Christ lave l'Église, lave son épouse par l'eau de la parole, les maris doivent faire de même. C'est intéressant car le mot qu'il utilise ici est le mot grec « rhéma » qui signifie la parole prononcée. Il signifie spécifiquement la parole lorsqu'elle est prononcée. Ainsi, Jésus lave son épouse, élimine les taches et les rides, et sème dans sa vie en lui adressant des paroles. Les paroles que nous prononçons sont tellement importantes. Alors, mesdames, écoutez-moi bien. En tant qu'homme, je voudrais vous dire quelque chose. Vous êtes intrigante, vous êtes fascinante, vous êtes mystérieuse. Vous êtes insondable pour nous. Il est difficile de ne pas vous regarder. Vous êtes magnétique. Vous êtes motivante. Vous avez de l'influence. Vous êtes merveilleuse, vous êtes attirante, vous êtes séduisante, vous êtes compétente, vous êtes importante, vous êtes persuasive, vous êtes engageante. Parfois, vous êtes effrayante. Vous êtes adorable, vous êtes captivante, vous avez de l'influence, vous êtes incroyable, vous êtes envoûtante, vous êtes remarquable, vous êtes extraordinaire, vous êtes déroutante, vous êtes addictive, vous avez de l'influence. Vous êtes étonnante, vous êtes magnifique, vous êtes époustouflante, vous êtes unique. Vous êtes déroutante, vous êtes envoûtante, vous êtes le summum de la création de Dieu. Vous êtes la forme la plus élevée de son génie créateur, et nous vous trouvons précieuse. Vous êtes précieuse à nos yeux. Verset suivant, Éphésiens 5, 31, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. » C'est une citation d'Adam dans le Jardin d'Éden. Verset 32, « Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Je reviendrai sur ces versets. Verset 33, « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Marie, aimez votre femme. Femme, respectez votre mari. C'est absolument essentiel et peut-être le principe le plus fondamental du mariage. Mais malheureusement, dans certains cas, c'est le moins bien compris. Nous avons déjà parlé du fait que les maris doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église et que les maris doivent être exhortés et encouragés dans ce sens. En général, les femmes n'ont pas besoin de beaucoup d'entraînement pour aimer leur mari, mais elles en ont besoin lorsqu'il s'agit de respecter leur mari. L'amour vient naturellement à une femme. Le respect vient naturellement à un homme. Dans la plupart des cas, ce dont les hommes ont le plus besoin, c'est le respect. Dans la plupart des cas, ce dont les femmes ont le plus besoin, c'est l'amour. Vous obtenez ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin en donnant à votre conjoint ce qu'il veut et ce dont il a besoin. Écoutez, mesdames, la façon d'amener votre mari à vous exprimer plus d'amour n'est pas de l'aimer davantage. c'est de le respecter davantage. Si vous voulez qu'il vous exprime son amour, vous devez lui exprimer votre respect. C'est un commandement auquel il faut obéir, aimer notre épouse et respecter notre mari. L'épouse qui dit « il n'y a rien que je puisse respecter », elle est probablement trop en colère ou trop découragée pour trouver ce qu'elle peut respecter chez lui. Il y a de fortes chances que votre mari n'essaie pas délibérément de vous causer du tort ou de vous détruire moralement par ses paroles. Il est probable qu'il mène un ou deux combats invisibles dans son âme et qu'il ne se rende pas compte de l'impact que ça a sur lui. Vous ne savez pas, ne le jugez pas trop vite. Femme, plutôt que de le critiquer, vous devriez prier pour lui. La pression est forte et je sais que les femmes la subissent aussi. Nous nageons à contre-courant dans un monde qui suit le courant. Mais la Bible dit « frappe le berger et que les brebis soient dispersées ». Le diable s'en prend aux hommes plus qu'à toute autre chose car cela cause plus de dégâts que toute autre chose. Y a-t-il ici des hommes qui se lèveront pour Christ et dirigeront leur famille comme Dieu nous a appelés à le faire, qui décideront d'aimer avec ce genre d'amour? C'est tellement important. La plupart des hommes ne sont pas animés de mauvaises intentions. Ils sont probablement aussi frustrés par vous que vous par eux. Il est fait à l'image de Dieu et il possède des attributs donnés par Dieu qui méritent le respect. Essayez de voir en lui ce que Dieu voit en lui et commencez à lui montrer du respect. Voici un petit test que vous pouvez essayer. À un moment où votre mari n'est pas distrait, ne le faites pas quand il regarde un match de foot. Surtout pas. Si vous entrez dans la pièce en plein milieu d'un film d'action et que vous dites « Chérie, il y a un problème avec l'évier », ce n'est pas le bon moment. Quand il n'est pas distrait, et priez et réfléchissez-y à l'avance afin d'être prête. Dites-lui « Chérie, j'ai beaucoup pensé à toi. Il y a certaines choses que je respecte vraiment chez toi. » Ensuite, dites « J'ai des choses à faire. » Commencez à sortir lentement de la pièce et voyez ce qu'il fait. Quoi ? Quelle chose ? Que veux-tu dire ? Observez et voyez. La plupart d'entre nous avons soif de respect et d'honneur. Voici une autre chose qui pourrait vous aider. Nous avons examiné les versets qui parlent de laver sa femme avec la parole et nous avons besoin d'encouragement dans ce domaine. Mais, mesdames, comprenez que vous n'avez pas épousé votre copine. Il n'est pas censé bavarder avec vous comme le fait votre meilleur ami. Nous ne sommes généralement pas faits comme ça, à quelques exceptions près. Si vous remontez au jardin d'Éden, la première chose que Dieu a donnée à Adam était une tâche. Garde le jardin et cultive-le. Il n'y avait personne d'autre, sauf lorsque Dieu parcourait le jardin et qu'Adam pouvait parler avec Dieu. Mais s'il avait un défi à relever, il devait l'intérioriser, trouver une solution en lui-même, puis la mettre en œuvre. Lorsqu'il avait un défi à relever, il le résolvait par lui-même ou avec Dieu s'il était là. Sinon, il devait trouver une solution et la mettre en œuvre. Ensuite, Dieu a pris une des côtes d'Adam, a formé Ève et l'a présentée à Adam. La première chose que Dieu donne à l'homme est une tâche. La première chose qu'il donne à la femme est une relation. Ainsi, lorsqu'une femme est confrontée à un défi, la première chose qu'elle veut faire est d'en parler. Je suis un peu gêné de vous dire cela, mais il m'a fallu 20 ans pour comprendre que lorsque ma femme faisait des déclarations, ce n'était pas parce qu'elle était parvenue à une conclusion. Elle cherchait à parvenir à une conclusion. Pour moi et la plupart des hommes, nous ne disons rien avant d'avoir trouvé la solution. Nous y réfléchissons, nous parvenons à une conclusion et ensuite, nous nous exprimons. Cela remonte en fait à la façon dont Dieu a créé les hommes et les femmes. Nous devons tous apprendre à mieux nous comprendre l'un l'autre. Les femmes doivent apprendre à mieux respecter les hommes et les hommes doivent apprendre à mieux aimer leurs femmes. Cela passe en partie par la communication et le choix des mots justes. C'est tellement important. L'une des choses que j'aime particulièrement, c'est que les Écritures utilisent le mariage comme métaphore du salut. Jésus est l'époux et l'Église est l'épouse. De la même manière que la femme se soumet à son mari, l'Église doit se soumettre à Jésus-Christ. Je crois que la Bible utilise une relation comme le mariage en raison de son intimité. Dieu veut avoir une relation intime avec vous. Il veut que vous le connaissiez. Il veut marcher avec vous et parler avec vous. Lorsque nous parlons d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, il ne s'agit pas simplement d'un rituel que vous accomplissez, alors que Dieu vous semble encore à des millions de kilomètres. Mon ami, la relation qu'un croyant entretient avec Christ est plus étroite que vous ne pouvez l'imaginer. La Bible déclare « Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui ». Si vous n'avez jamais ouvert votre cœur à Jésus-Christ et fait de lui le Seigneur de votre vie, faites-le aujourd'hui. Vous ne le regretterez jamais.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.